trois parties dans mon exposé. Je vais d'abord insister sur le fait que c'est une joie dans les profondeurs du cœur et qui est compatible avec une très grande tristesse. Et Thérèse en a su quelque chose. Deuxièmement, le point le plus important, c'est une joie qui suppose un effort. Ça ne se fait pas tout seul. Et troisièmement, peut-être encore plus important, c'est une joie qui s'enracine dans la méditation incessante de l'Écriture. C'est une joie en lien avec l'intelligence. J'ai des raisons d'être joyeux. Et si vous ne vous rappelez pas, avec votre intelligence, cette raison d'être joyeux, vous serez triste. Ce n'est pas une joie qui vous est communiquée comme ça directement par l'Esprit-Saint. C'est une grande erreur. Les gens attendent de l'Esprit-Saint une joie qui doit leur venir du Verbe, de la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui nous a dit des choses. Et l'Esprit-Saint va nous rappeler ce que nous a dit Jésus. L'Esprit-Saint ne se substitue jamais à la deuxième personne de la Sainte Trinité. Ce n'est pas son rôle. Chacun son rôle. Les gens prient, s'imaginent qu'ils vont recevoir la joie comme ça directement, parce qu'ils attendent justement une joie au niveau affectif. Une euphorie que l'Esprit-Saint leur donnerait, une ivresse que l'Esprit-Saint leur donnerait, déconnectée de l'intelligence, déconnectée des convictions, déconnectée de la Bible. Ça, ce sont les sectes ou une mauvaise interprétation du renouveau charismatique. Premièrement, c'est une joie dans les profondeurs du cœur. Dès l'âge de 16 ans, au moment où son père vient d'entrer à l'asile de fous, comme on disait alors, au Bon Sauveur de Caen, Thérèse écrit à Céline, sa sœur, « Souffrons en paix ». J'avoue que ce mot de paix me semblait un peu fort, mais l'autre jour, en y réfléchissant, j'ai trouvé le secret de souffrir en paix. La gamine a 16 ans. Qui dit paix ne dit pas joie, ou du moins joie sentie. Pour souffrir en paix, il suffit de bien vouloir tout ce que Jésus veut. Ne croyons pas pouvoir aimer sans souffrir beaucoup. Notre pauvre nature est là, elle n'y est pas pour rien. C'est notre richesse, notre gagne-pain. Elle est si précieuse que Jésus est venu sur la terre exprès pour la posséder. Souffrons avec amertume, sans courage. Jésus a souffert avec tristesse. Ça, c'est le mot prononcé par le père Pichon dans sa retraite au Carmel de Lisieux en octobre 1887. Jésus a souffert avec tristesse. Sans tristesse, est-ce que l'âme souffrirait? Et nous voudrions souffrir généreusement, grandement. Céline, quelle illusion! Vous voyez que à 16 ans, Thérèse a déjà posé pas mal de fondements pour sa petite voix, parce que c'est un élément essentiel de sa petite voix. Les petites âmes, elles souffrent petitement, à la petite semaine, minute après minute. Elles n'ont pas de courage. Elles ne voient pas comment elles vont continuer à pouvoir souffrir comme cela. Ce ne sont pas des héros. Les petites âmes ne se mettent pas au-dessus des difficultés. Elles passent en dessous, comme dit Thérèse. Ma sœur, je n'arrive pas à me mettre au-dessus de la difficulté. Faites comme moi, répondait Thérèse, passez en dessous. Et elle rappelle cet épisode de son enfance à Alençon, un jour où les grandes personnes n'arrivaient pas à entrer par la porte cochère de la préfecture qui se trouvait en face de sa maison natale, rue Saint-Blaise, parce qu'un cheval barrait l'entrée. Et Céline et elle, toutes petites, sont passées en dessous du cheval, tandis que les grandes personnes n'arrivaient pas à passer. Voilà ce que l'on gagne à être petit. On ne fait pas de l'hélicoptère au-dessus des difficultés, on passe en dessous, comme Jésus. On laisse la douche. On n'essaye pas de se persuader qu'on ne souffre pas. Mon Dieu, j'en ai ras-le-bol. Les eaux me submergent. Des profondeurs de ma misère, je crie vers toi, Seigneur. Le sourire des saints ne doit donc pas nous faire illusion. Montrant un verre qui contenait un remède très amer sous l'aspect d'une délicieuse liqueur de groseille, Thérèse confiait le 30 juillet 1897, « Ce petit verre est l'image de ma vie. Aux yeux des créatures, je buvais des liqueurs exquises. » Et c'était de l'amertume. Je dis de l'amertume, non, car ma vie n'a pas été amère, parce que j'ai su faire ma joie et ma douceur de toute amertume. Vous savez que, à la fin de sa vie, Thérèse disait souvent, oui, je souffre, mais Jésus est là. Oui, je souffre énormément. Oui, ça me paraît insupportable. Mais c'est, non, je ne dois pas dire que c'est insupportable, puisque Jésus me porte. Ça, c'est le réalisme spirituel de Thérèse. Oui, Je reconnais ma souffrance. Je ne pratique pas la méthode Coué. Je n'essaye pas de me dire que je suis le plus heureux des hommes. Je n'essaye pas de me dire que tout ira mieux demain. Je ne suis pas spécialement optimiste. Oui, ça va mal. Je reconnais la situation. Mais Jésus est là. Un motif surnaturel. Et donc, cet optimisme chrétien est tout à fait compatible avec un pessimisme de tempérament. Si vous voyez plutôt la bouteille à moitié vide qu'à moitié pleine, ça n'a aucune importance. Vous pouvez vivre l'espérance chrétienne. Même confidence le 15 août suivant, en réponse à Mère Agnès qui évoquait les paroles de Jean de la Croix sur la mort des âmes consommées dans l'amour, il faudra dire que c'est au fond de mon âme la joie et les transports. Cela n'encouragerait pas tant les âmes si l'on croyait que je n'ai pas beaucoup souffert. Thérèse de Lisieux exprime sa pensée à ce sujet à propos d'une réflexion de M. de Lamennais qu'elle a trouvée dans les réflexions qui suivent le texte de l'imitation de Jésus-Christ. Notre Seigneur au jardin des Oliviers jouissait de toutes les délices de la Trinité, et pourtant son agonie n'en était pas moins cruelle. C'est un mystère, mais je vous assure que j'en comprends quelque chose par ce que j'éprouve moi-même. Et c'est pour cela que j'aime ces crucifix du XIIe siècle, où l'artiste, le sculpteur, a osé représenter Jésus souriant sur la croix, parce que dans ce même siècle de Saint Bernard, le réformateur des cisterciens, Saint Bernard, affirmé, Jésus au calvaire devait être le plus heureux et le plus malheureux des hommes. Le plus malheureux, bien sûr, parce qu'il souffrait atrocement dans son corps et qu'il souffrait atrocement dans sa sensibilité et qu'il connaissait quelque chose qui ressemble à un abandon de Dieu, une agonie terrible, comme Thérèse va la connaître dans les 18 derniers mois de sa vie. Mais en même temps, le fond de son âme était dans la paix, car il se savait tout au fond de lui-même le Fils bien-aimé du Père. Jésus ne fait pas une crise d'amnésie au calvaire. Il n'oublie pas qu'il a dit quelques heures plus tôt « Ceci est le calice de mon sang répandu pour vous et la multitude en rémission des péchés. » Quand on sait qu'on va sauver, qu'on est en train de sauver l'humanité, comment ne pas être le plus heureux des hommes? Quand on sait qu'on est le Fils bien-aimé du Père, qu'on lui dit « Abba », c'est quand même extraordinaire que le seul moment où l'on voit Jésus appeler Dieu « Abba » dans l'Évangile selon saint Marc, c'est le moment où il souffre atrocement à l'agonie. Vous voyez les contrastes de l'Évangile. Et l'artiste ici l'a sans doute évoqué par ces deux sillons profonds que l'on trouve dans le front du Christ. Il devait souffrir atrocement. Mais bien sûr que l'art ne peut qu'évoquer cette coexistence entre une très grande tristesse et une très grande paix. Pour bien parler de Jésus-Christ, il faut dire les deux. Non seulement parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme, mais parce que dans son humanité, il pouvait connaître cette coexistence entre une très grande paix et une très grande tristesse. Bernadette constatait la même compatibilité de la tristesse et de la joie quand elle se rendait au parloir de Nevers pour aller se montrer à des évêques curieux de regarder le visage de la petite voyante de Lourdes. « Ma mère, vous pourriez nous faire descendre au parloir, sœur Marie Bernard, on voudrait tellement voir ce visage qu'a vu la Sainte Vierge à Lourdes. » Et sœur Marie Bernard descendait, profondément triste d'être ainsi objet de curiosité de la part de ces évêques qui s'imaginaient qu'ils allaient devenir plus chrétiens parce qu'ils verraient quelques instants le visage de la petite voyante de Lourdes. « J'irai au parloir avec joie, quoi que mon intérieur soit dans la tristesse. Je dirai à Dieu, oui, j'y vais, à la condition qu'une âme sortira du purgatoire ou que vous convertirez un pécheur. » En voilà encore une qui a le sens des affaires. C'est pour avoir bien compris cette distinction entre le niveau du cœur profond et celui de l'affectivité que Thérèse ne faisait pas consister la perfection de l'amour dans le fait de ressentir de grands élans vers le martyr. Elle l'explique à sa marraine, sœur Marie du Sacré-Cœur, découragée par les désirs du martyr que sa filleule exprime dans sa lettre de septembre 1896 et que nous appelons le manuscrit B. « Mes désirs du martyr ne sont rien. Ce ne sont pas eux qui me donnent la confiance illimitée que je sens en mon cœur. Ce sont à vrai dire les richesses spirituelles qui rendent injuste lorsqu'on s'y repose avec complaisance et que l'on croit qu'ils sont quelque chose de grand. Ces désirs sont une consolation que Jésus accorde parfois aux âmes faibles comme la mienne, et ces âmes sont nombreuses, Mais lorsqu'il ne donne pas cette consolation, c'est une grâce de privilège. Rappelez-vous ces paroles du père Pichon, « Les martyrs ont souffert avec joie, et le roi des martyrs a souffert avec tristesse. » Oui, Jésus a dit, « Père, éloignez de moi ce calice. » Sœur chérie, comment pouvez-vous me dire après cela que mes désirs sont la marque de mon amour? Un romancier contemporain a très bien assimilé cet aspect essentiel de la pensée thérésienne, c'est Bernanos. Si vous lisez les romans de Bernanos, aucun de ses personnages n'est joyeux. Même le héros du roman, la joie. Bernanos fait exprès de priver ses personnages de la joie pour bien montrer que la joie évangélique, c'est uniquement dans les profondeurs du cœur. J'avoue que personnellement, je n'ai pas tellement envie de ressembler au curé d'Ambricourt dans le journal d'un curé de campagne, parce que c'est vraiment quelqu'un d'un peu triste, qui ne réussit pas dans son apostolat, qui est souffreteux, qui a même du mal à se réjouir lorsqu'il a été le témoin et quelque peu l'artisan de la conversion de la comtesse. Mais Bernanos fait exprès de montrer que le prêtre heureux dans son apostolat peut être extrêmement triste par ailleurs, de connaître l'agonie. Il a parfaitement assimilé la pensée de Thérèse, ce grand disciple de Thérèse. Et vous savez que le grand spécialiste actuellement de Sainte Thérèse, Monseigneur Guy Gaucher, est venu à Thérèse par Bernanos. Quand il était jeune, Guy Gaucher, jeune prêtre à Paris, ne supportait pas cette petite nonne qu'il trouvait insignifiante. Mais il s'intéressait beaucoup à Bernanos et il préparait une maîtrise en Sorbonne sur Bernanos. Et un jour, il a vu que le livre de chevet de Bernanos était « Les derniers entretiens de Thérèse ». Et que si les derniers mots du journal d'un curé de campagne, tout est grâce, étaient en italique, c'est parce que c'était une citation de Thérèse de Lisieux. Ah bon, elle peut dire des choses comme ça, Thérèse de Lisieux? Il est entré dans une librairie, il a raflé tout ce qu'elle trouvait sur Thérèse, et il a attrapé une thérésite aiguë. Je ne révèle aucun secret, bien sûr, il a eu plus d'une fois l'occasion de le dire et de l'écrire. Non, c'est pour vous dire à quel point Bernanos a assimilé la pensée de Thérèse.